On a commencé à parler sur les noms de Dieu. Et puis, évidemment, on ne fera pas tous les noms de Dieu qui nous sont révélés dans les Écritures. Je voulais utiliser particulièrement ceux qui sont attribués à Jésus. Et bon, la semaine dernière, on était quoi? Peut-être une dizaine ici avec la neige. Et on a vu un nom qui était l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu, que Jésus, notre agneau. Et puis, on comprend qu'il a donné sa vie pour nous. Il est venu comme un agneau en humilité. Et puis, qu'il est venu donner sa vie. Et les noms pour Dieu sont quelque chose d'important. Je faisais remarquer la semaine dernière que même un des commandements de Dieu étant dans les 10 commandements, Dieu demande de ne pas prendre son nom en vain. Je ne laisserai pas impuni si mon nom est pris en vain. Alors pour Dieu, Dieu se révèle, il montre qui il est, il montre ses œuvres aussi à travers ses noms et aussi ses titres, parce que je voulais utiliser ce soir des noms et des titres qui sont attribués à Dieu. Vous allez comprendre tantôt par titre un peu ce que je veux dire. Mais c'est ça, Dieu se révèle, Dieu manifeste qui il est à travers ses noms. Je ne sais pas si vous connaissez, probablement que ça se dit en anglais, là, Robert E. Lee, qui on l'appelle aussi le Général Lee. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, Général Lee. Comment? Oui, exactement, c'est un sudiste de l'État de Virginie. Et il est un homme vraiment d'honneur et qui l'a combattu pour les sudistes, avec les sudistes, parce qu'il venait de Virginie et il ne voulait pas combattre contre la Virginie. Mais en même temps, c'était un homme qui était contre l'esclavage. Et malgré ça, dans la guerre de sécession, bon, il a laissé beaucoup de choses à travers cette histoire de la guerre en Amérique. Et il a laissé sa fortune, il a laissé sa santé. Mais il y a une chose qu'il ne voulait pas laisser. À un moment donné, il y avait plus tard, cet homme-là était dans sa maison et des représentants de la loto, je ne sais pas quel loto en question, sont venus cogner chez lui et ils se sont investis avec M. Lee. Puis on dit, on aimerait, M. Lee, utiliser votre nom pour la loto qu'on veut mettre sur le marché. Et puis vous allez pouvoir devenir riche avec ça et puis on va utiliser votre nom pour présenter notre produit de loto. Et là, le M. Lee, comme je disais, qui était un homme d'honneur, s'est levé. Avec la faiblesse qu'il avait, il s'est redressé, puis regardé ces hommes-là, puis il a dit, j'ai laissé ma fortune, j'ai laissé ma santé, puis je ne laisserai pas salir mon nom pour un produit de loto comme ça. Puis il a rejeté les gens en partant, même s'il était pour mourir avec moins d'argent que ce qu'il lui promettait. Pour lui, son nom était important. C'est ce qui lui restait, et pour lui, c'était sa fierté, ce qu'il voulait représenter, puis qu'on se souvienne de lui aussi. Je me souviens, quand on était aussi en Haïti, on voyait régulièrement le nom de la loto là-bas était la loto Père Éternel. C'est vraiment incroyable. Oui, la loto Père Éternel. Et puis, j'étais content d'entendre qu'un des pasteurs, à un moment donné, à l'église qu'on assistait, a lui-même dénoncé cette pratique-là de la loto qui est appelée loto Père Éternel. Mais évidemment, Dieu a des noms. Dieu veut se révéler par ses noms et puis il veut que ses noms soient honorés, qu'ils soient respectés. Le nom de Dieu est quelque chose d'important. Et à travers cette étude-là qu'on va terminer ce soir, je veux qu'on apprenne qu'à travers ces textes-là, qu'on redécouvre la personne de Dieu. Peut-être qu'on n'entendra pas des choses nouvelles, mais qu'on se souvienne de qui est notre Dieu. Qu'est-ce qu'il révèle? Qu'est-ce qu'il dit de lui-même à travers ses noms? Et alors, j'aimerais qu'on fasse un mot de prière et après ça, on va tourner ensemble dans Apocalypse, chapitre 1. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Tu es un grand Dieu et on veut ce soir pencher nos cœurs vers toi, pencher notre tête vers toi en ayant cette attitude-là, Seigneur, que de vouloir apprendre plus de toi. On veut te connaître, on veut savoir qui tu es, on veut te glorifier, Seigneur, par nos vies. Tu nous as tellement donné, comme on a partagé tantôt avec ces textes avec lesquels tu es venu nous chercher. Seigneur, tu nous as donné ta vie, tu nous as donné ton amour. Et en retour, on veut te glorifier, te louer, se rappeler qui tu es, se rappeler tes œuvres et prendre le temps de réfléchir sur tes noms, sur ces titres que tu portes. C'est en nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on te prie ces choses. Amen. Apocalypse, chapitre 1. On va regarder différents textes ce soir. Et on va commencer avec ce qui nous est révélé dans l'Apocalypse. On va lire les versets 4 à 8. Est-ce qu'il y a un volontaire qui voudrait lire les versets 4 à 8 d'un bloc? Danny, s'il te plaît. OK, j'aime beaucoup cette salutation-là, cette doxologie-là par laquelle on commence dans l'Apocalypse. Et dans les dans le premier verset qu'on a lu, verset 4, Jean aux sept églises qui sont en Asie, donc la grâce et la paix vous soient données. De la part de qui? De celui de l'Éternel, de celui qui est, qui était et qui vient. Qu'est-ce que ça révèle? J'aimerais vous poser une question, et on peut regarder à travers les cinq versets qu'on vient de lire. Quels sont les titres ou les noms qui sont donnés dans ces versets-là? De qui on parle aussi? Et qu'est-ce que ça révèle? Ça fait trois questions. Mais c'est quoi les titres? Qu'est-ce que ça révèle? On vient d'en parler d'un premier. Celui qui était, qui est et qui vient. De qui on parle? De l'Éternel. Qu'est-ce que ça révèle? Dieu se présente comme étant celui qui était, qui est et qui vient. Ouais. Ni commencement, ni fin. Un autre mot qu'on dit aussi, le Tout-Puissant. Dieu est celui qui était. Dieu est celui qui est dans le présent. Dieu est celui qui vient. Dieu est au-dessus du temps. Pierre, il dit, qu'il cite un des psaumes aussi, « Un jour est comme 1000 ans pour Dieu, et 1000 ans est comme un jour. » Dieu est au-dessus du temps. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle l'Éternel. « Je suis ». Dieu est ce Dieu qui est constamment au présent, celui qui est au-dessus du temps, celui qui contrôle le passé, le présent et le futur. L'Éternel. On parle de l'Éternel dans le verset 4. Quoi d'autre aussi? Quels sont les noms ou les titres qui sont donnés dans ces versets-là, que l'on voit. Le témoin fidèle. Alors, on parle de, évidemment, il y a une salutation trinitaire de Dieu, des sept esprits qui sont devant son trône, et aussi verset 5, de la part de Jésus-Christ. Le quoi? Le témoin fidèle. Pourquoi est-ce qu'on qualifie Jésus comme étant le témoin fidèle? Qu'est-ce que l'on connaît de la personne de Jésus pour qu'on l'appelle le témoin fidèle? Parce qu'il n'a jamais péché, il est saint. J'ai entendu un autre commentaire aussi, Mme Richard. Parce que tout ce qu'il a dit, il le fait aussi. Pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus le témoin fidèle? Quelle importance est-ce que ça a pour nous que de se souvenir que Jésus, c'est le témoin fidèle? Il est allé jusqu'au bout. Oui, absolument. Oui, Céline? Oui, absolument. Il est venu nous partager les promesses du royaume, nous parler de son Père, nous parler du salut, et nous en a parlé fidèlement, avec vérité, avec droiture. Jésus mérite ce titre-là de témoin fidèle. Oui. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais alors Jésus, c'est ça, il est ce témoin-là qui a vu dans le ciel, qui a vu le Père, qui a vu la création, Jésus qui est Dieu lui-même et qui est descendu pour venir nous partager ces choses-là. Le témoin fidèle aussi. Et ça, c'est rassurant pour nos vies, de savoir que notre maître, de savoir que Jésus, ce qu'il nous dit est vrai. Ce qu'il nous dit, comme on dit, ce qu'il a dit, il l'a toujours fait aussi. Alors, ce qu'il dit, il le fait, mais ce qu'il a vu, il le rapporte fidèlement aussi. Il nous en parle fidèlement. D'autres noms que vous voyez dans le texte. Le premier-né des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'on comprend? Que Jésus soit le premier-né. Colossiens, okay, c'est un verset que je voulais qu'on lise. Tournez-y, gardez un doigt dans l'Apocalypse. Allez dans Colossiens, chapitre 1. Juste l'expression premier-né, qu'est-ce que vous comprenez par cette expression-là? Oui. Que c'est la preuve, dans quel sens que tu vas dire c'est la preuve? Oui. Oui, OK. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous comprenez comme premier-né? Oui, absolument. On va le voir aussi avec Colossiens. Qu'est-ce que vous comprenez encore par l'expression premier-né? Comment t'as-tu ça? Ça sonne nouvel air? OK. Qu'est-ce que tu as dit, René? Oui. Ouais. C'est ça. Alors, évidemment, il y a ce premier sens-là qu'on comprend qui est le premier-né, mais il y a aussi un deuxième sens qu'on comprend que celui qui est le premier-né, en général, le premier qui est né, ben a l'héritage aussi. Mais ça va un peu plus loin que juste ce sens, comment je pourrais dire, terrestre, que de dire c'est le premier qui est arrivé. Ça va plus loin que ça un petit peu. Mais on peut lire les versets 14 à 18. Tu veux-tu les lire, Danny, s'il te plaît? Colossiens 1, excusez. Colossiens 1, 14 à 18. Vas-y, Danny. OK. Puis on pourrait lire aussi, je vais lire le verset 19 et 20 pour compléter une série de tout. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Jésus, on dit, verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Quand on parle de Jésus comme étant le premier-né, il faut comprendre ce titre honorifique qui est donné comme premier-né. Le premier-né n'a pas toujours le sens littéral d'un premier de famille qui est arrivé, mais a un sens honorifique aussi. Dans les Écritures, quand on voit le terme premier-né, c'est souvent ce titre-là qui est donné. Jésus, il est placé au sommet de la création. Jésus, il est ce que l'on voit dans les versets 16. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le premier-né de toute la création? Car, verset 16, on l'explique pourquoi est-ce qu'on l'appelle le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Qui a créé toutes ces choses-là? C'est Jésus. C'est le Fils. C'est le premier-né qui est le chef suprême qu'on parle aussi. Le terme premier-né, regardez verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Dans Exode, je fais juste vous citer deux textes. Exode 4, 22, tu diras à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Un titre honorifique que Dieu donnait à Israël, son peuple. Regardez, je vous cite, écoutez plutôt. Psaume 89, 20, « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai loin de mon huile sainte. » Verset 26, « Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Est-ce que David était le premier-né de sa famille? Il était loin d'être le premier. Mais Dieu a dit, « Je ferai de lui le premier-né, le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Alors, c'est un titre honorifique qui est donné, par exemple, à David, où « Je ferai de lui le premier-né des rois de la terre. » Jésus, et quand on emploie cette expression-là, « le premier-né », c'est un titre honorifique où ce qu'on place Dieu, Jésus, la personne de Jésus, au plus haut sommet de la création, de tout ce qui a été fait. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Je vous invite à revenir dans Apocalypse 1, où est-ce qu'on était. On a parlé que Jésus-Christ est le témoin fidèle. On a parlé qu'il est le premier-né des morts. Et quoi d'autre aussi? Oui. Afin d'être tout, comme j'oublie comment est-ce qu'il le cite, là, comment est-ce qu'il le dit. C'est ça, afin d'être en tout le premier. Exactement. Alors, il est le premier d'entre les morts. Alors, Jésus est mort, il est ressuscité aussi, et c'est pourquoi aussi il va revenir nous chercher, celui qui peut nous donner la vie aussi. Mais il est le premier-né d'entre les morts, il est le premier-né de la création, qui est dit aussi au verset 15 qu'on lisait tantôt. Quoi d'autre aussi qu'on voit dans Apocalypse 1? Le prince des rois de la terre. Qu'est-ce que ça évoque sur la personne de Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus soit le prince des rois de la terre? La royauté? Quoi d'autre? Oui. Alors, Jésus est au-dessus des rois de la terre. Lequel des rois peut dominer sur la personne de Jésus? Il n'y en a aucun. Le mot qui est là, prince, c'est Achon, qui est traduit par, comme on voit, prince, mais qui est traduit souvent aussi par chef. Et le verbe Acho, c'est exercer le pouvoir sur, régner sur Jésus et celui qui règne sur les rois. Alors, il n'est pas en dessous des rois, il n'est pas un prince de rois, mais il est le chef des rois. Qu'est-ce que ça nous rappelle de Dieu? Qu'est-ce que ça nous rappelle de Jésus? La suprématie. Quoi d'autre aussi? Qu'est-ce qu'on a à se souvenir? Tantôt, on lisait Colossiens. Sur qui Jésus est le chef? Sur toute chose. Les choses visibles, invisibles, trône, qu'on lisait, dignité, domination, autorité, il est au-dessus de toutes ces choses-là. Jésus n'est contrôlé par personne, n'est subordonné à personne. Évidemment, Jésus a choisi d'obéir à la volonté de son Père, mais il est celui qui règne sur les rois aussi. On a vu au verset 5, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Dans les versets suivants, on voit son œuvre aussi, ce qu'il a fait en nous. Qu'est-ce que Jésus a fait en nous? Et là, il n'y a pas nécessairement un titre, mais on parle de son œuvre. Si on résume les quelques versets qu'on vient de lire, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a manifesté envers nous? Oui, il nous aime. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Celui qui nous aime, s'il nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est parce qu'il nous aime. Et je sais que je ne vous apprends rien ce soir, mais on se rappelle cette vérité-là qui est tellement importante pour notre adoration aussi envers Dieu, pour notre amour réciproque aussi envers lui, de dire Jésus nous a aimés à un point tel qu'il nous a délivrés de nos péchés. Quoi d'autre aussi? Qu'est-ce qu'il a fait avec nous? Un royaume. Quoi d'autre, j'ai entendu? Des prêtres, des sacrificateurs. Pour qui on est sacrificateur? Pour Dieu son Père. Ça veut dire quoi? On rouvre la parenthèse rapidement, puis on referme ça pour retourner sur les titres, les noms de Jésus. Mais ça fait quoi un sacrificateur pour le Père? Jésus vous a fait sacrificateur pour Dieu son Père. C'est quoi vous faites? OK? OK? Ah, OK, fait, tu mentionnes de partager. Oui, OK. J'ai entendu Gaétan aussi, tu disais quelque chose tantôt? Les sacrifices de louange. Je pense que c'est Hébreux 13 que tu cites, qui sont le fruit de nos lèvres qu'on va lui envoyer, qui sont des parfums de bonne odeur. Alors, oui, absolument. Des sacrificateurs, ça l'offre des parfums. Et pour nous, c'est des louanges aussi qu'on va donner à Dieu. Quoi d'autre aussi? Qu'est-ce que vous faites comme sacrificateur? OK? Vous partagez ce que Dieu est. Vous partagez son message aussi. Et oui, vas-y René. Ouais. Quand on conduit ces gens-là vers lui, là. Ouais. Ouais. Ouais, absolument. Alors, et on aurait pu citer aussi, mais ça a déjà été dit, le Romains 12 aussi, qu'on offre aussi nos vies en sacrifice vivant. Et puis ça, c'est ce qui est un culte raisonnable aussi, alors qu'on s'offre à. Qu'on offre nos vies aussi à Dieu. Dieu nous a sauvés, nous a délivrés de nos péchés par son sang pour nous faire un royaume. Puis des sacrificateurs, alors Dieu nous a donné un rôle aussi, nous a donné un titre aussi de sacrificateur. Et si on continue d'avancer, pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je veux qu'on termine avec le verset 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. De qui on parle dans le dernier verset, verset 8? Tantôt, ça a commencé avec ça. On parlait d'une salutation trinitaire. Et dans le verset 8, de qui on parle? De Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. C'est qui on attend? C'est Jésus. Celui qui va revenir. Celui qui va venir nous chercher. Et j'avais pensé à un court texte. Non, je pense qu'on va y aller tout de suite. J'ai pensé à deux textes. Allez dans Zacharie 12. On va lire les versets 9 et 10. Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut lire Zacharie 12, 9 et 10? Le but de cette lecture dans Zacharie, et particulièrement le verset 7, « Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Et on attend son retour. Jésus va revenir sur les nuées. Et c'est qui vont voir qui va revenir? Celui qui quoi? Celui qui ont percé. Qu'on voit dans le verset 7. Zacharie, dans le verset... Comment? Dans Zacharie, là, tu parles? Oui, c'est ça exactement. C'est ça que je voulais qu'on lise. Tu veux-tu le lire, Serge, justement, verset 9 et 10? OK, on attend. Merci, Claude. Celui qu'on attend, c'est celui qui était, qui est et qui vient. Il va revenir et quand il va revenir aussi, dans l'Apocalypse, on parle que les nations vont se lamenter aussi à cause de lui. Mais on voit que Jésus, quand il va revenir dans le verset 10, « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils vont tourner les regards vers qui? » vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est intéressant de voir comment est-ce que l'Écriture se complète à partir de Zacharie, de voir aussi les Évangiles, qu'on voit Jésus qui a été percé, puis qu'on voit Apocalypse, qui nous parle aussi du retour de Jésus. Alors, les Écritures se sont accomplies et vont s'accomplir. Mais les gens vont tourner les regards vers celui qu'ils ont percé. Et verset 8, si on revient dans Apocalypse, je veux qu'on aille un petit peu plus loin dans Apocalypse aussi. « Je suis l'alpha et l'oméga. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le début et la fin, vous connaissez que c'est les deux, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Et il est le commencement et la fin. Le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Regardez, j'aime beaucoup le terme le Tout-Puissant, mais de qui on parle? On peut aller voir dans Apocalypse 22, du moins, où est-ce qu'on parle de l'alpha et l'oméga. Apocalypse 22, les versets 12 à 17. Un volontaire qui voudrait lire Apocalypse 22, 12 à 17. OK, Richard. OK, de qui on parle? On voit dans le verset 16, « Moi, Jésus, vous envoyez un ange pour vous attester ces choses. » Et verset 17, on parlait tantôt de celui qui vient, celui qu'on attend, et c'est Jésus qui va revenir. On parle de le rejeton de David qu'on a entendu parler aussi dans Isaïe. On parle de la postérité de David, on parle de l'étoile brillante du matin. Et l'épouse et l'esprit, c'est qui l'épouse? C'est ça. Et nous, on peut dire « Viens, Jésus », et que celui qui entend dise « Viens ». Et alors, finalement, quand on prend le temps de réfléchir sur la personne de Jésus, de réfléchir sur ses titres, sur ses noms, on se souvient qu'il est le témoin fidèle, qu'il est le chef des rois, qu'il est, on cherche le verset 5, le premier-né aussi. On sait qu'il est l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, et qu'il est aussi tout-puissant. Est-ce que Jésus est tout-puissant? Est-ce que Jésus peut tout? Absolument. Jésus est tout-puissant. OK, j'aimerais vous inviter à tourner dans Jean, chapitre 10. On va terminer avec ça ce soir. Des titres honorifiques qui ont été donnés à Jésus, comme on a vu particulièrement dans Apocalypse, ces titres honorifiques-là. Et on aurait pu lire aussi Philippiens 2, Éphésiens 1, qu'on parle de l'honneur aussi qui a été donné à Jésus. Comme par exemple dans Philippiens 2, à cause de cette humilité-là, mais Dieu l'a souverainement élevé aussi, puis il lui a donné tout nom, le nom, quelqu'un qui veut citer correctement, je vais dire tout croche, René, comment ça dit ça? C'est ça, le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, il l'a fait à la gloire de Dieu le Père aussi. Alors, il y a des titres honorifiques, il y a de l'honneur qui a été donné aussi à la personne de Jésus. Et on voit dans Jean 10, Jésus se donne un titre et qui évoque aussi certainement un rôle. Jean 10, on va lire les versets 11 à 18 qu'on va terminer avec. Un volontaire qui voudrait lire ces versets-là? OK, Daniel. OK. Quel rôle ou quel nom Jésus se donne? Le bon berger. Qu'est-ce que ça nous dit de la personne de Jésus? Jésus, on vient de lire plusieurs versets où ce que Jésus se présente comme étant le bon berger, comme étant le berger de nos âmes, mais ce que l'on comprend aussi par la suite. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies? Qu'est-ce que ça nous rappelle de la personne de Jésus qui soit le bon berger? Conducteur, celui qui s'occupe de nous. Quoi d'autre aussi? Oui, Claudette. Il nous guide. Ouais. Il nous conduit. Qu'est-ce que l'on comprend aussi du fait que Jésus soit le bon berger pour nos vies? Oui, Kathleen. Il veille sur nous, prend soin de nous. Comparativement aux mercenaires, j'ai manqué, Mme Richard, qu'est-ce que tu as dit? Jean-Pierre, est-ce que tu avais levé ta main? Mme Richard, qu'est-ce que vous avez dit? Oui, celui qui prend soin de nous. Jean-Pierre. Oui, il nous unit. Oui, Richard. Oui. Le gardien, le berger de nos âmes, absolument. Oui, René. Oui, c'est ça. Il est bon envers nous, c'est ça. Ce matin, il y avait le conducteur racontait une anecdote justement sur un berger réel qui avait des moutons réels. Et puis, il racontait qu'à un moment donné, il forçait ses moutons à rentrer constamment dans l'enclos. C'était un de ses amis qu'il avait côtoyé, puis il était rude un peu avec ses brebis, puis il essayait de les pousser, puis quand il rentrait pas, ben il les tirait par les oreilles, puis ah ouais, il est sit. Et puis ça te rappelle-tu des choses, Bertrand? Et puis à un moment donné, il racontait que il y avait à un moment donné justement un petit mouton, là, un bébé mouton, je sais pas comment ça s'appelle, qui il venait juste de naître et puis qui était en train de s'étouffer dans ses sécrétions. Puis il s'est dit, la seule chose que je peux faire pour déboucher son nez, c'est déboucher sur le nez. Alors, c'est ça qu'il a fait. Et puis, il est allé déboucher le nez de sa brebis parce qu'il voyait bien qu'elle était en train de mourir dans ses sécrétions. Il a débouché le nez. Mais il racontait par la suite que à partir de cet événement-là, peu importe où ce qui se promenait, plusieurs brebis à partir de ce temps-là commençaient à le suivre, puis ont créé un attachement à lui. Plutôt qu'à les forcer constamment, les brebis ont commencé à suivre. Et je trouve que ça montre cet exemple-là, que nous, on est aussi ces brebis-là, que Jésus a fait cette même chose-là, il nous débloque le nez et bien plus. Ça aurait été à Étienne, elle serait restée là. Elle aurait fini en m'échouer. Mais je trouve que l'image est à celle de nous et de Dieu. Le bon berger prend soin de nos vies. Et évidemment, chacun d'entre nous, on est en agonie. Chacun suivait sa propre voie, comme des brebis errantes. Dieu est venu nous chercher, Jésus est venu nous chercher, et on est en agonie dans nos péchés. Ce qu'il a fait, c'est qu'il nous en a délivrés, comme on a lu tantôt dans l'Apocalypse, il nous en a sauvés. Et par ça, dans cette relation-là, mais regardez le verset 14. Je devrais être correct, là. J'espère que j'ai d'autres amis. Regardez dans Jean 10, le verset 14. « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Tantôt, on citait aussi... c'est quel verset tu citais, Bertrand, tantôt? C'est dans Jean 10 aussi. Verset 27-28. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Cette relation-là qu'on a avec le bon berger, avec Jésus qui est le berger, il prend soin de nous, il nous connaît, on a une relation personnelle et du fait qu'il nous a sauvés, qu'il nous a libérés de nos péchés, on devrait avoir cette motivation-là de « je veux suivre Jésus, je veux être avec lui, je veux suivre le berger ». Oui, Claudette. Oui. Oui, absolument, même les brebis égarées, c'est ça. Il va les ramener, il va en prendre soin aussi. Jésus est le bon berger. Jésus est celui qui est constamment présent pour nos vies. Et on pourrait se rappeler le psaume 23 que David citait de l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Il n'a pas dit l'Éternel était mon berger. Il n'a pas dit l'Éternel sera mon berger. L'Éternel est mon berger. Jésus n'a pas dit j'étais un bon berger ou je serai un bon berger. Je suis le bon berger. Jésus est encore le bon berger aujourd'hui. Jésus est présent dans nos vies. Chacune des brebis qui dit « Moi, je veux te suivre », Jésus sera là à tous les jours. Il sera le bon berger. Jésus est ce bon berger-là qui est le vrai berger, celui, comparativement au mercenaire, on a lu le texte, on n'a pas beaucoup commenté, mais le mercenaire, quand il voit le loup s'approcher, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il ne se met pas en peine des brebis et puis il s'en va. Comparativement au bon berger, qu'est-ce qu'il fait quand il voit le loup? Il s'en va l'attaquer lui-même et il protège ses brebis. Est-ce que Jésus l'a fait? Absolument. On était attaqué certainement par le loup et Jésus est allé et puis a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Maintenant qu'on appartient au bon berger, on est dans la main de Dieu et il n'y a personne qui va les ravir. Est-ce qu'il y a un loup qui peut venir ravir une brebis dans la main de Dieu? Absolument pas. Le bon berger nous conduit. Le berger, tantôt on lisait Colossiens. Colossiens, on nous rappelait que Jésus est le premier-né de toute la création, le créateur de l'univers. Et le créateur de l'univers, c'est mon berger. Personnellement, je peux me lever n'importe quand dans la nuit et parler à mon berger. Il est là. Il est là pour moi. Et il prend soin de moi. Jésus disait, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore là. Puis je crois que Jésus parlait de moi. David Chouinard, je veux qu'il soit dans mon troupeau. Il y aura un seul troupeau, un seul berger, puis je serai son berger. Puis ça, c'est vrai pour vous aussi. Jésus est le bon berger. Et comme je citais tantôt dans Psaume 23, constamment David, quand il parle, nous rappelle justement le nom de Jésus. L'Éternel est mon berger. Je ne crains aucun mal. On termine avec ça rapidement, si vous voulez. J'ai peur d'oublier certaines sections, mais juste rappeler rapidement qu'est-ce que David disait de Dieu. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de quoi? À cause de son nom. Dieu est fidèle, le bon berger est fidèle, puis le bon berger m'a conduit. Pourquoi? À cause de son nom. Dieu, il est fidèle, Dieu, il est éternel, et il est présent dans nos vies, il est là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Quand que je passe des épreuves dans ma vie, il est où Dieu? Il est là avec moi. Il marche avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand? Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de qui? De l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Jésus est le bon berger. Jésus est le berger de nos âmes. Je disais que je voulais terminer avec ça, mais ça va vraiment être presque vrai. Ah, je vais juste vous citer de mémoire, là. J'espère que je ne le ferai pas tout croche. J'aimerais renverser ce qu'on est en train de faire. On est en train de se souvenir des noms de Dieu. Et Dieu, il fait la même chose avec nous. Dieu, il connaît nos noms. Il nous appelle. On vient à lui. Il nous connaît par nos noms. Il sait qui on est. C'est juste pour nous rappeler qu'il y a une relation réciproque. Si on se souvient de qui est Jésus, Jésus se souvient de qui vous êtes aussi. Il se souvient de votre nom. Il ne vous oublie pas. Il ne m'oublie pas. Il disait à Moïse, vous pourriez lire, notez-le, Exode 33, 12 et 17. Il dit, je te connais par ton nom. Je sais qui t'es. Puis je vais être avec toi. Jean 10 qu'on vient de voir, mais Jésus nous connaît par nos noms. Il nous appelle par notre nom. Dieu te connaît par ton nom. Puis qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça nous rappelle? Qu'est-ce que ça change dans nos vies? Ça devrait nous amener à découvrir encore plus la personne de Dieu et à s'abandonner à lui aussi. S'il est le bon berger, s'il est le témoin fidèle, s'il est tout puissant, s'il est celui qui vient, On a beaucoup d'adoration à lui rendre. On a beaucoup d'espérance. Ça devrait transformer nous rappeler comment transformer nos vies à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il révèle. Je vais terminer par un mot de prière, justement, pour l'adorer. et puis nous engager aussi à vivre en conformité avec ce qu'il révèle de sa personne. Dieu, on vient devant toi pour t'adorer. Tu es un grand Dieu. C'est merveilleux quand on prend le temps de te regarder, de se souvenir de ta personne. On fait juste effleurer qui tu es, Dieu, et on va passer l'éternité à te connaître. Puis on a hâte de passer l'éternité avec toi. Mais déjà présentement, on peut gratter, on peut découvrir ces choses-là de toi. Et tes noms se révèlent beaucoup, Seigneur, te révèlent beaucoup, nous montrent qui tu es, nous montrent ce que tu fais aussi. C'est rassurant pour nos vies, c'est rassurant pour nos âmes de savoir qui tu es. Dieu, en même temps, si tu es le bon berger, on veut être des bonnes brebis aussi. On veut te suivre fidèlement, on veut t'obéir, on veut changer nos vies en fonction de ce que tu es, de ce que tu nous demandes. On sait que ce que tu veux de nos vies, c'est des bonnes choses, mais on veut aussi te suivre avec fidélité. C'est en nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen.